Je suis dans une unité à l'université de Nîmes qui s'appelle CROM, qui travaille sur les risques chroniques, donc le CRO, c'est le CRO de chronique, et émergent, alors c'est le M et le E de émergent qui fait le nom de mon unité. Voilà, on est sur des noms d'unités avec des acronymes toujours plus ou moins recherchés. Et c'est un labo pluridisciplinaire, interdisciplinaire, qui cherche même à être transdisciplinaire et à faire travailler ensemble des gens de toutes les sciences humaines et sociales et les sciences dures, sciences expérimentales. Jusqu'à l'année dernière, j'étais le seul historien dans cette unité, et donc ça m'a obligé, si j'avais pas été consentant, mais j'étais quand même consentant, à aller vers d'autres disciplines et à participer à des projets quelque peu originaux. Voilà. Donc je vais avoir l'occasion d'évoquer quelques-uns de ces projets et quelques-unes de ces expériences que j'ai menées depuis la fin de ma thèse. Et puis, comme je le disais, donc je suis très content d'être ici puisque ma formation d'historien ruraliste doit beaucoup au pôle rural et en particulier à ces séminaires que j'ai fréquentés pendant des années. Donc il y a une certaine émotion à se retrouver ici, même si on a changé de local depuis quelques années, puisque moi, à l'époque où je venais très souvent, c'était au rez-de-chaussée de la MRSH. Voilà. Donc ma thèse qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marc Morisseau, et c'est le lien finalement avec le pôle rural que je voudrais utiliser ici pour introduire cette intervention, donc c'était en 2012. Et c'était une question qui portait sur les espaces incultes, marginaux, les garrigues, les espaces réputés de peu ou d'aucune production. Et l'objectif de cette thèse, c'était de montrer en fait que dans ces espaces marginaux, en réalité, il y avait toutes sortes de ressources économiques qui étaient exploitées, il y avait des cultures temporaires et il y avait des activités d'élevage et des activités de cueillette également. Et j'avais centré l'essentiel de mon étude sur les fibres textiles de cette plante qui s'appelle le Spartium jonceum, qui s'appelle le genêt d'Espagne, en langue courante, qui est notamment une plante à fibres, mais qui servait aussi à nourrir le bétail, qui avait toutes sortes de vertus dans la valorisation des terrains supposés incultes. Et je me suis intéressé à ce végétal dans une démarche entre l'histoire, l'ethnologie un petit peu, la géographie également. Dans une certaine mesure, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, dans la région où elle a été mise en œuvre pour son utilisation textile, c'est-à-dire le diocèse civil de Lodève, qui apparaît dans la partie centrale de la province de Languedoc de l'Ancien Régime. Alors, je ne vais pas vous parler à proprement parler de ma thèse aujourd'hui, même si de temps en temps je vais reprendre des exemples. Que j'avais commencé à travailler dans le cadre de ma thèse, et notamment dans les derniers mois de la thèse, qui ont débouché sur des publications par la suite. Mais je tenais quand même à dire un mot là-dessus, sachant que c'est un petit peu le lien avec mon retour aujourd'hui, ici, parmi vous, et que je vais très souvent prendre des exemples dans le Languedoc, quelquefois un petit peu dans la Provence, et notamment dans le Languedoc, on va se retrouver souvent dans cette région de l'Audève. Au cours des presque 10 ans qui se sont écoulés depuis la fin de ma thèse, et surtout depuis mon recrutement à l'Université de Nîmes en 2014, j'ai été amené à m'intéresser de plus en plus aux questions de risque, aux questions de salubrité, d'insalubrité dans les campagnes, puisque je suis avant tout ruraliste. Et j'ai été amené de plus en plus à utiliser des archives qui parlaient de problèmes sanitaires, qui parlaient de maladies dans les campagnes et qui évoquaient aussi au passage des activités agricoles, des activités agro-pastorales. Donc j'ai réussi à faire le lien entre mes nouveaux champs de recherche et mes premières amours de l'histoire rurale. Donc je commencerai par aborder dès une première partie dans cet exposé. Ce que j'ai croisé dans mes recherches, dans le monde des savants, dans le monde des gens qui avaient fait au XVIIIe et au XIXe siècle des études de médecine, qui sont parfois devenus professionnels de santé, ou quelquefois qui n'ont pas utilisé leurs études de médecine pour en faire leur métier, mais qui sont quand même restés dans ce monde de gens cultivés sur le plan médical, sur le plan sanitaire et sur le plan de la botanique étant essentielle pour les apothicaires, pour faire des remèdes et pour soigner donc pour des gens qui s'intéressaient à la médecine. Et tous ces savants, en cherchant des plantes dans les campagnes, apportent à l'historien une foule de témoignages sur les pratiques quotidiennes du monde paysan. Donc ça, c'est ce que j'aimerais aborder dans la première partie de cet exposé. Ça fait partie d'un premier ensemble de thématiques de recherche qui m'intéressent ces dernières années et qui continuent à m'intéresser aujourd'hui. Ensuite, je passerai à ce que les personnes cultivées dans le domaine de la médecine nous apportent comme information sur l'hygiène publique, l'hygiène dans les campagnes au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis je terminerai par un focus sur la question des plantes textiles et de leur transformation et de ce qu'elles induisent comme difficultés sanitaires. Et je vous montrerai que ça peut autant renseigner sur l'histoire de la santé et l'histoire finalement des populations et même de la démographie que sur l'histoire des techniques et en particulier l'histoire des techniques agricoles. Donc pour commencer, et là je suis encore assez étroitement connecté avec les recherches que je faisais dans le cadre de ma thèse jusqu'en 2012, le monde savant qui a souvent fait des études de médecine, qui a un lien avec la santé, et ce que ça apporte du point de vue des techniques agricoles, j'aimerais insister sur deux plantes utiles, entre guillemets, comme on disait autrefois, parce qu'aujourd'hui on est un peu revenu de cette notion de plantes utiles, et on considère finalement, au moment de l'extinction de certaines espèces, que toutes les plantes ont leur usage dans les écosystèmes. Mais pour les populations paysannes du passé, les plantes utiles, c'était les plantes qui apportaient une ressource économique. Et je voudrais faire un focus d'abord sur le genêt, forcément, pour partir de ma thèse, et puis sur le buis, qui a aussi été un végétal que j'avais abordé en 4 ou 5 pages dans ma thèse et sur lequel j'ai été amené à retravailler ensuite dans une autre publication. Le buis, qui est un végétal aux multiples usages, mais l'usage le moins connu, finalement, c'est l'usage d'engrais. Et j'avais eu l'occasion de présenter cette question dans un colloque de Flarens, qui est un des hauts lieux de l'histoire rurale dans le sud-ouest de la France. Les colloques de Flarens ne sont plus à Flarens maintenant, mais enfin, ils continuent à porter le nom des colloques de Flarens. Et dans le colloque sur les fumiers qui avait eu lieu il y a 5 ou 6 ans, j'avais eu l'occasion de changer de plante et de passer au buis. Alors pour commencer par des travaux sur le genêt, quand je m'étais intéressé à cette plante donc comme plante textile, comme productrice de fibres textiles, j'avais commencé par partir tout simplement des écrits imprimés d'époque, des textes des savants. Sur la page de droite, c'est la première page d'une publication de 1782 qui fait suite à une communication devant la Société royale des sciences de Paris l'année d'avant, en 1781. C'est un pharmacien de Montpellier, un apothicaire de Montpellier qui s'appelle Monté qui avait fait cette communication. C'est une communication qui concerne la minéralogie du Bas-Languedoc, comme le nom l'indique. Et après avoir décrit les sols, les terres de toute une partie du Languedoc dans la région de l'Audève, qui est donc le cœur de mon terrain d'étude pour ma thèse, il termine cet article avec une page sur laquelle il explique que au milieu de ses pérégrinations géologiques, minéralogiques, il a vu une plante curieuse qui était exploitée par les paysannes du coin, qui était le genêt, qui fournissait un succès d'année au chanvre. Et il explique comment on transformait cette fibre. Donc c'est une de mes sources, une des premières et des plus faciles à trouver quand on part des imprimés. Et puis sur la page de gauche, quelques années plus tard, 1785, une publication de M. Broussonnet, c'est Auguste Broussonnet, qui lui n'est pas un apothicaire, mais est un grand botaniste de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, et qui est passé par la faculté de médecine de Montpellier, où il a fait des études de médecine et où il s'est spécialisé dans la botanique. Puis ensuite, il s'est intéressé à partir du milieu des années 1780 à l'agronomie. Et là, dans le cadre de cette publication, il parle du genêt d'Espagne. Dans la note 1-2 cette première page de sa publication, il explique que ce genêt, c'est le Sparsium jonseum de la classification de Linné. Donc on voit le savant cultivé qui, par ses herborisations notamment, a une bonne connaissance des plantes de cette époque-là. Et il dit à peu près la même chose que Monté, mais en davantage de pages. Et il décrit le travail des paysans de la région de l'Odève, région qu'il connaît bien parce qu'il en est originaire, et on sait que régulièrement il va dans sa famille. Il signe des actes notariés de membres de sa famille, et on peut penser que c'est lors de ses voyages sur le terrain, finalement, en Languedoc, qu'il a pu observer techniques agricoles, des techniques agronomiques qui l'intéressent et dont il rend compte dans ses écrits. Et à la suite de ses travaux, ici parmi les plus anciens de Monté et de Brossonnet, j'avais pu, dans le cadre de ma thèse, faire une comptabilisation. Alors le graphique que je vous présente là, il est finalement très partiel et très daté parce que j'ai pas eu le temps de le poursuivre depuis des années, mais maintenant, à l'âge de Google Books et de Gallica, j'arrive à retrouver sans arrêt de nouvelles publications en ligne que j'avais pas vues à l'époque où j'avais commencé mes études dans des bibliothèques à la faculté de médecine de Montpellier ou bien à Paris au Muséum national d'histoire naturelle où je traquais les textes de la fin 18e et du 19e qui parlaient du genêt comme fibre textile. Mais on voit bien qu'il y a des périodes avec des pics de publications. C'est un graphe bibliométrique, une comptabilisation par décennie des articles et des livres qui parlent de mon sujet de thèse. On voit bien qu'il y a des pics, et j'avais mis en évidence dans ma thèse trois pics. Un de la fin 18e, début 19e siècle, qui manifestait un intérêt agronomique de la part de savants qui avaient souvent fait des études de médecine, comme Auguste Brossonnet ou comme l'apothicaire montpelliérain Jacques Monté, dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, il y a une deuxième période qui est liée à la Seconde Guerre mondiale, à la pénurie et à la nécessité de remettre en vigueur des fibres locales, voire nationales, au temps du maréchal Pétain. Et ensuite, il y a une troisième et dernière publication où il y a des personnes comme moi qui s'intéressent à un sujet qui n'intéresse pas grand monde d'autres, mais qui font de temps en temps des petits articles ou des ouvrages collectifs, et ça fait à nouveau augmenter les publications. Moi, la période qui m'intéresse ici, vous l'avez compris, c'est la période rouge. C'est la période de l'intérêt agronomique après Monté et après Brossonnet. On voit qu'il y avait quelques publications avant aussi, mais le grand boom des publications, et j'ose dire grand boom parce que depuis j'en ai trouvé d'autres, et la tendance est la même, mais avec des chiffres un peu plus élevés. Le grand boom, c'est à la suite des travaux de Brossonnet. C'est le local qui est en même temps un des grands savants de l'Europe occidentale du siècle des Lumières, membre de la Société des sciences de Paris, membre de la Royal Society of London, qui est donc l'équivalent, la grande société des sciences anglaise de cette époque-là, qui devient en 1803 détenteur de la chaire de botanique de la faculté de médecine de sa ville, de Montpellier, qui, par la même occasion, est, jusqu'à sa mort, de 1803 à 1807, le directeur du Jardin des plantes de Montpellier. Le Jardin des plantes de Montpellier, c'est le jardin botanique qui était lié à la faculté de médecine, dans lequel les étudiants apprenaient les plantes, apprenaient à herboriser, et ça leur servait ensuite pour leurs études de médecine. C'est le plus ancien jardin botanique de France, créé au temps d'Henri IV en 1593, et on le voit à l'arrière-plan, derrière ce portrait d'Auguste Brossonnet, on voit l'orangerie qui a été construite à partir de 1803 sous la direction de Brossonnet à l'époque où il dirige le Jardin des Plantes. Et puis derrière, on devine les arbres d'une partie du jardin. Et puis au loin, les Cévennes et le Pic Saint-Loup qui est la petite montagne, le petit sommet qui est derrière, au nord de la ville de Montpellier. Et donc à la suite des travaux de ce grand homme de la science de la fin du 18e et du début du 19e siècle, on a eu une diffusion des connaissances sur cette pratique locale du Lodévois et des informations qui ont été données par les savants sur les gestes techniques d'une activité dépendante de l'agriculture, la transformation des fibres textiles du genêt d'Espagne. Donc on est dans un esprit d'encyclopédisme avec des savants qui ont une bonne formation en botanique qu'en général ils ont acquise dans des facultés de médecine et en particulier dans celle de Montpellier. Des savants qui se reprennent les uns les autres et qui reprennent les travaux des pionniers comme c'est ici le cas de Brossonnet, qui expliquent que c'est un végétal qui peut aussi participer à régénérer les sols, à fertiliser le sol par ses racines, à retenir la terre sur les pentes des garrigues languedociennes pour lutter contre l'érosion. Et donc tous ces agronomes vantent fin 18e, début 19e siècle les vertus d'une plante a priori sauvage, mais qu'on peut pourtant accompagner, cultiver, exploiter comme une ressource environnementale finalement qui a été importante pour les paysans de cette époque. Parmi les suiveurs de Broussonnet, il y a un parame à lui qui est évoqué ici dans une publication auvergnate qui cherche à répandre en Auvergne les pratiques agricoles autour du genêt qu'on connaît en Languedoc. Mais vous avez dans le second paragraphe, deuxième ligne, l'évocation de M. le comte Chaptal qui a fait connaître la toile de genêt du sud du Massif central, du Lot-des-Vois, des Cévennes. Le comte Chaptal, c'est le grand chimiste. C'est un parent de Broussonnet et c'est aussi le futur ministre de... Enfin, au tout début du 19e siècle, le ministre de Napoléon, ministre de l'Intérieur. Et Chaptal, c'est encore quelqu'un qui a fait des études de médecine dans les années 1770 avant d'avoir une chaire de chimie à Montpellier à partir de 1782. Chaptal s'est détourné de la médecine. Son oncle, qui l'hébergeait pendant ses études à Montpellier, aurait aimé qu'il devienne, comme lui, médecin. Chaptal, lui, préférait la chimie. Il a affirmé qu'il s'était détourné de la médecine après avoir participé à une dissection pendant laquelle le cadavre qu'ils étaient en train de disséquer s'était réveillé. Il n'était pas complètement mort, visiblement. Et c'est ça qui aurait achevé de le faire partir de Montpellier et de lui faire aller étudier la chimie à Paris. Tout ça pour vous dire qu'on a encore un exemple parmi des dizaines de quelqu'un qui n'est peut-être pas médecin, mais qui est un savant qui a acquis des bases en botanique et en médecine dans le domaine d'une des deux principales facultés de médecine, les deux grandes facultés de médecine à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, c'est Paris et c'est Montpellier. Donc on voit ici qu'on arrive à avoir des informations, je ne vous donne pas lesquelles parce que ce n'est pas l'objet ici de venir vous parler du genêt qui était le cœur de ma thèse, mais on a des informations sur des techniques de travail du sol et de transformation des fibres végétales, donc des informations agricoles et des informations industrielles, qui sont données par des savants cultivés dans le domaine de la médecine. Alors, ils n'apportent pas des informations intangibles, parfaites, abouties, rien qu'à leurs propres travaux. Ce que j'ai fait dans ma thèse, je suis aussi allé chercher des archives plus proches du quotidien des paysans pour les confronter avec les quelques lignes écrites par le savant qui passe au milieu des campagnes pendant quelques jours ou quelques heures et qui ne voit qu'une partie des gestes techniques des paysans. Mais ça a apporté quand même une bonne base et une bonne trame d'ensemble à la connaissance historique, cette vision un petit peu ethnographique du savant qui décrit ce qu'il observe dans les paysans de son temps. Même chose pour une deuxième plante. Contrairement à ce que vous croyez, je ne vais pas vous parler de l'olivier. Mais on a des traités de culture de l'olivier, nombreux à l'époque moderne ou au XIXe siècle, qui expliquent toujours que pour que l'huile d'olive ait un bon goût, il ne faut pas engraisser les oliviers avec du fumier animal, parce que sinon ça donne un mauvais goût. Et il faut mettre de l'engrais vert, en quelque sorte, dirions-nous aujourd'hui, des déchets végétaux dans le sol, pour enrichir le sol. Et ensuite, ça permet une bonne fertilisation des arbres, sans pour autant altérer le goût de l'huile. On retrouve ça chez Olivier de Serres, par exemple, au tout début du XVIIe siècle, dans son théâtre d'agriculture. On retrouve ça chez Pierre-Joseph Amoureux, qui est un médecin, qui a fait ses études à Montpellier, qui est bibliothécaire de la faculté de médecine de Montpellier à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et Amoureux a écrit un traité de l'olivier en 1784, dans lequel il consacre une dizaine de pages aux manières de fumer les oliviers, de fertiliser les oliviers. Et puis, à côté d'Amoureux, je vous ai donné un deuxième exemple ici, avec un traité d'un certain Barjavel, qui est docteur de médecine à Carpentras, dans le Vaucluse, dans les années 1830. Et on voit qu'il explique qu'il faut utiliser du buis, des broussailles, du feuillage des bois, pour, après les avoir fait pourrir à demi par les pluies, pour mettre au pied des oliviers, au niveau des racines des oliviers, pour fertiliser le sol. Et donc tous les auteurs de cette époque-là expliquent que parmi les végétaux qu'on doit utiliser pour fertiliser les oliviers, il y en a un qui est très bien dans le sud de la France en tout cas, c'est le buis, le Buxus sempervirens que vous voyez en photo sur cette image-là. Alors je pense qu'on utilisait surtout le buis parce qu'on ne savait pas en faire autre chose et que c'était une plante qui était, à part ça, inutile. Et la seule utilité économique qu'on lui trouvait, c'était la fertilisation du sol. Mais c'est encore un bon exemple d'une plante utile dont on trouve souvent, sur laquelle on trouve souvent des informations dans les travaux des médecins ou de personnes qui ont fait à l'époque des études de médecine. Alors, par exemple là, à une époque beaucoup plus récente, dans un ouvrage de 1947, une contribution à l'étude pharmacologique du buis, eh bien, on trouve en fait la mention dans l'introduction, avant des pages et des pages très arides sur les médicaments qu'on peut faire à partir de cette plante, et on trouve la mention du fait que finalement, le buis, ça a trois usages, la pharmacie, la tournerie et l'artopierre. Le fumier est complètement oublié par cette étude-là et par beaucoup d'études, et c'est ce qui m'a donné envie, moi, de faire un travail d'historien là-dessus et d'aller chercher des archives proches du quotidien des paysans et de les croiser avec quelques informations qui venaient de savants et notamment de médecins pour avoir des informations sur autre chose que la pharmacie, la tournerie et l'artopierre. La tournerie ou la manufacture des objets à partir du buis, c'est la fabrication de petits objets en bois. Par exemple, les fameuses boules de pétanque d'Aiguine, un village provençal qui a son musée du buis. Et le site web de ce musée nous indique voilà, des gens en train de faire une partie de pétanque avec des boules cloutées fabriquées à base de buis. Ce qu'on appelle l'artopierre, c'est quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas au premier chef dans mes propres recherches, mais il y a des gens que ça intéresse énormément. Et vous voyez qu'il y a une société américaine du bois de buis et de l'artopierre, American Boxwood Society. Et en bas à droite, il y en a aussi une européenne, The European Boxwood and Topiary Society. En résumé, ces activités très intéressantes liées à l'artopierre, c'est des gens qui taillent les buis avec toutes sortes de formes, plus ou moins intéressantes. Ça peut être une forme d'histoire que de faire de l'histoire de l'artopierre. On en faisait déjà à Versailles au temps de Lenôtre et dans les châteaux du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui essayaient dans leur jardin d'imiter ce qu'on faisait à Versailles. Mais bon, c'est un propos que je préférerais laisser de côté et m'intéresser à ce que les auteurs jusque-là avaient négligé, c'est-à-dire ces paysans qui découpent à la machette des petits morceaux de buis pour en faire un gros tas, pour mélanger ça avec le fumier, avec la litière des animaux, ou pour mettre directement dans les vignes et dans les oliveraies pour fertiliser le sol, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est documenté par des photos de période un peu ancienne du XXe siècle, ou qui est documenté par des ethnologues, par des géographes qui sont allés sur le terrain au milieu du XXe siècle et qui ont observé cet usage du buis. Et dans des études un petit peu plus anciennes, on trouve au XVIIIe et au XIXe siècle toutes sortes d'auteurs, comme par exemple le Provençal Maxime Seguin de Paxi ou le Languedocien Louis-Augustin d'Ombre-Firmas, qui sont des auteurs qui constatent que pour aller faire éventuellement de la tournerie donc, et des objets en bois, on arrache des buis pour récupérer les racines et les souches pour en faire quelque chose en menuiserie, en tournerie. Mais aussi, il y a beaucoup de dégradation du couvert végétal, fin 18e et 19e siècle, dans un contexte de croissance démographique. Dégradation du couvert végétal pour aller récupérer des rameaux de buis, les couper en petits morceaux, avec les feuilles aussi, et pour les mettre dans le sol pour faire pourrir et pour obtenir de l'engrais. Certains auteurs, on le voit bien avec Maxime Seguin de Pazzi, certains auteurs s'inquiètent de cette pourriture qu'on met dans les rues des villages ou dans les rues des villes. Et il évoque un village du Vaucluse qui s'appelle Ville. La commune de Ville en éprouva une terrible en l'an 5 qui n'avait pas d'autre cause. Et il parle là d'une épidémie. Une épidémie qui, selon cet auteur, serait liée aux mauvaises odeurs des buis qu'on met à pourrir dans les rues des villes et des villages. J'ai d'autres exemples que j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure en vous en prenant quelques exemples. Donc on revient, vous voyez, à cette question toujours de la santé ou des médecins qui sont un petit peu tiraillés entre leur intérêt pour les pratiques locales, paysannes, qu'ils ont envie de faire connaître pour le progrès agronomique, et puis leur formation et leur métier de médecin qui fait qu'ils s'inquiètent par rapport à l'état sanitaire des populations qui parfois prennent des risques et font des activités agricoles ou des activités artisanales qui sont assez risquées. Donc j'en viens au second point, à ces spécialistes de médecine qui exercent la médecine ou qui ne l'exercent pas, mais qui se soucient de l'hygiène des populations urbaines ou rurales, et ici j'insisterai bien entendu surtout sur les populations rurales. Il y a toutes sortes de publications qui sont sorties ces dernières années et qui concernent la médicalisation des campagnes. Je pense en particulier à l'ouvrage « Médecine et santé dans les campagnes » qui a été dirigé par Claude Grimmer, Marie Bolton et Patrick Fournier à la suite d'un colloque à Clermont-Ferrand. J'avais eu l'occasion d'y parler de quelques cas languedociens sur lesquels je vais revenir ici. Et puis un colloque qu'on avait organisé à la Société d'histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, et qui concernait le Gard et les départements limitrophes, le Bas, Languedoc, oriental, sur les questions d'hygiène et de santé au XVIIIe et XIXe siècle. Et dans ce livre, Hygiène et santé en Bas, Languedoc, oriental, 18e, 19e, début 20e siècle. Il y a notamment une contribution de Robert Chamborodon sur les topographies médicales du sud de la France, et il a étudié dans le département du Gard les 6 topographies médicales qui ont été publiées entre le milieu du 18e siècle et la fin du 19e siècle. Alors j'ai envie de commencer par vous parler de ces topographies médicales. Ce sont des ouvrages qui cherchent à faire un état des lieux de la santé des populations, rurales comme urbaines. On a environ 600 ouvrages qui s'appellent topographie médicale ou qui forment en tout cas œuvre de topographie médicale dans toute la France entre 1761 et 1885. En général, ces topographies médicales sont écrites par des médecins ou en tout cas par des gens qui ont fait un minimum d'études de médecine. Par exemple, sur les 6 publié entre le milieu 18e et la fin 19e siècle dans le département du Gard, les auteurs sont toujours des médecins, ou alors quand il y a plusieurs auteurs, il y a au moins parmi les auteurs un médecin. Et le genre littéraire topographie médicale, c'est un genre qui parle de santé, qui parle d'hygiène des populations, et donc qui parle d'environnement des populations. On est à l'époque de la grande vogue de l'aérisme, de la théorie des miasmes, des théories néo-hippocratiques qui considèrent que l'état de santé des populations dépend grandement de l'environnement dans lequel elle vit. Et donc pour l'historien, c'est quelque chose de très intéressant pour connaître la démographie locale et les conditions de vie des populations rurales, mais aussi pour connaître finalement les activités agricoles, les activités paysannes en général. Parce que ces topographies médicales indiquent certaines maladies qui sont liées à des mauvaises odeurs, à des émanations issus de l'artisanat, ou bien issus de la production de fumier, hein, comme dans le cas du Vaucluse que j'évoquais tout à l'heure. Les topographies médicales s'intéressent aussi aux étangs et aux marais qui sont cause d'épidémies à une époque de grande vogue des assèchements. Au XVIIIe siècle, on cherche à assécher les marais à cause des moustiques, à cause de toutes les fièvres que ces marais font subir aux populations riveraines. Les topographies médicales s'intéressent à l'état des rues, à l'état des maisons et à leur aération. Et ce sont des topographies médicales qui prônent l'élargissement des rues, l'ouverture des rues pour que l'air circule mieux et pour que les miasmes restent moins, pour qu'il y ait moins d'épidémies. Les topographies médicales s'intéressent aussi à l'inoculation de la variole à partir des années 1750 ou à la vaccination à partir de Chaptal, à partir du début du 19e siècle. Donc pour l'historien ruraliste, ce sont vraiment des types d'ouvrages extrêmement intéressants qui renseignent aussi sur l'alimentation des populations et donc sur ce qu'elles cultivent, sur les pratiques agricoles du quotidien. Un exemple ici, j'ai pas cherché à prendre un exemple d'après 1760, j'ai pris un texte un petit peu précoce qui n'est pas exactement une topographie médicale mais que j'avais sous la main et qui relate bien cette ambiance du siècle des Lumières qui se développe à partir du milieu du XVIIIe siècle. Là on a un médecin, Jean-Joseph Chassanis, qui écrit une dissertation sur la maladie épidémique qui a régné dans la ville de Lodève et ailleurs en 1751. Et là, sur cette page et demie, il explique que, en fait, dans cette petite ville de Lodève, qui est une ville artisanale, une ville d'industrie textile, Il y a beaucoup de saleté qui est liée aux activités nauséabondes artisanales, mais aussi au fait qu'on entrepose dans les rues de la ville du fumier. Alors, il n'explique pas si c'est du fumier animal, s'il y a du végétal, mais il y a sûrement du végétal mélangé et peut-être même du buis. On n'est pas à la campagne, mais on est dans une ville qui a quelques caractères agrestes. Les champs sont aux portes de la ville et on fait du fumier dans la ville. Donc il y a des activités agricoles jusqu'au cœur de la ville. Et on voit bien ici cette inquiétude des médecins qui ont un idéal d'assainissement de la ville, un idéal de purification pour lutter contre les épidémies. Là, je parle de savants qui écrivent des livres sur l'état des populations et sur la santé des populations. Dans un second point de cette seconde partie sur les professionnels de santé, j'aimerais insister sur une grande question qui est encore une question actuelle, la question de l'accès des populations aux soins et la question de l'accès des campagnes à la médicalisation. Aujourd'hui, on a des déserts médicaux, notamment dans les régions de montagne, dans le Massif central, dans certaines régions rurales. Et ces enjeux géographiques actuels se posaient déjà au XVIIIe siècle avec des régions qui étaient mieux dotées en personnel médical que d'autres. Sous la direction de Jean-Pierre Goubert et de Roselyne Reille, dans les années 1780, il y a eu une tentative de carte de la densité médicale concernant les médecins, les chirurgiens et les officiers de santé, qui sont les trois principales catégories de soignants de cette époque-là. On est à l'époque napoléonienne, autour de 1805. Il y a eu à cette époque-là une grande enquête. Et les auteurs ont réussi à montrer ces inégalités des densités médicales, avec des zones qui restent en blanc, parce que c'est des zones où le fonds des archives nationales qu'ils ont dépouillé comportait des lacunes documentaires. Et ils n'ont pas réussi à représenter la présence des soignants dans tout les départements de l'époque, mais on voit les inégalités d'accès aux soins, hein, pour les régions où la carte a permis de représenter la situation de l'époque. Alors, ce que j'ai essayé de faire, moi, dans mes travaux de ces dernières années, où je me suis intéressé à la présence des professionnels de santé dans les campagnes, ben, j'ai essayé de combler ce vide, parce que le département de l'Hérault et le département du Gard, c'était vraiment mon terrain de jeu. Et je suis un peu allé voir des archives départementales et je me suis aperçu assez rapidement qu'en fait les archives qui ont été consultées par les auteurs aux archives nationales avaient en général des doubles dans les archives départementales, dans les archives des préfectures, dans la série M. Et c'était le cas pour le département de l'Hérault et le département du Gard. Le résultat des questionnaires qui a été envoyé au ministère de l'Intérieur n'a pas dû être gardé aux archives nationales, mais j'avais quand même les informations au niveau local. Donc j'aurai moyen maintenant de refaire la carte en rajoutant deux départements à ce qui avait été fait à cette époque-là. Moi, j'ai choisi de ne pas faire le calcul par arrondissement, comme ça a été fait à l'échelle nationale par les auteurs dont je viens de vous présenter le travail. J'ai essayé de raisonner à échelle communale et de comparer différentes régions du Bas-Languedoc et en particulier de comparer les villes et les campagnes. Partant du postulat qu'on est à proximité de la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier, hein, qui se trouve en plein milieu de la carte ici, avec un point sur lequel on voit qu'il y a beaucoup de soignants qui résident, qui sont domiciliés à Montpellier, et ça ne surprendra pas, à côté de la faculté de médecine. Il faut savoir que Montpellier, au XVIIIe et encore au début du XIXe siècle, forme environ 50% du corps médical national. Environ 50% des médecins de toute la France ont fait leurs études à Montpellier. Et ensuite, pour les autres, ben, ça se partage entre Paris, hein, qui est la seconde grande faculté de médecine du royaume à cette époque-là, enfin, à la fin du XVIIIe ou de l'Empire au début du XIXe siècle, et puis d'autres facultés de médecine de province qui sont beaucoup moins prestigieuses et qui forment beaucoup moins de médecins. Donc on a des gens qui viennent de toutes les provinces et puis qui font leurs études de médecine à Montpellier et puis ensuite qui repartent. Et je suis parti du postulat qu'il devait quand même y en avoir beaucoup plus aux environs de Montpellier, parce que finalement, c'était plus facile pour les enfants des élites de villes ou de villages qui se trouvent à 20, 30 ou 50 kilomètres de Montpellier. C'était beaucoup plus facile d'aller faire les études à Montpellier plutôt que de partir de Normandie ou du nord de la France pour aller aussi faire ses études à Montpellier. La chose est compliquée pour répondre à la question de la médicalisation dans cette région-là, parce que en fait, il y a plusieurs docteur en médecine. Il y a ceux qui sont formés dans les deux plus prestigieuses facultés, et puis il y a les autres, et il y a des niveaux de formation qui sont différents. Il y a aussi les maîtres en chirurgie, qui ne sont pas des médecins, qui appartiennent à un corps de métier, à une maîtrise, une corporation, qui ne font pas leur étude à l'université, qui ne passent pas par les facultés de médecine, qui se forment en apprentissage, en quelque sorte, hein, auprès d'un maître, qui sont moins savants que les médecins, mais qui sont plus proches du terrain, qui savent faire des opérations, qui souvent ont une meilleure connaissance du corps humain que ceux qui font des études de médecine, qui sont très bons en latin et qui travaillent dans des textes, parfois des textes de l'Antiquité, qui sont relus et sur lesquels on glose ensuite pendant toute l'époque moderne. On est au XVIIIe siècle, à une époque où l'apprentissage de la médecine est en train d'être révolutionné, est en train d'être remis en question, et tout le mérite, en fait, des réformes de la Révolution et de l'Empire de l'époque napoléonienne est de réformer les études de santé, déjà, on les réformait à l'époque, et de rapprocher les médecins et les chirurgiens. Et ce qui se passe à partir d'une loi de 1803, c'est que les chirurgiens obtiennent eux aussi leur doctorat, et à partir de là, il y a deux doctorats, un doctorat en médecine et un doctorat en chirurgie, avec quand même des médecins qui sont formés aussi en chirurgie, et des chirurgiens qui obtiennent aussi un savoir théorique, le savoir des médecins. Il y a une forme de convergence qui se fait dans la seconde moitié du siècle des Lumières entre les deux professions de médecins et de chirurgiens, au service d'une meilleure formation pour les deux professions. Sinon, jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a tout en haut les médecins qui ont des très bonnes connaissances théoriques, mais qui sont des praticiens, quelquefois et souvent même assez médiocres. Et en dessous, les chirurgiens qui, eux, sont des artisans, finalement. Des chirurgiens qui, d'ailleurs, sont aussi des barbiers, des perruquiers, donc qui passent plus de temps à couper des cheveux ou des barbes qu'à faire des opérations chirurgicales, très souvent. Donc quand on parle de médicalisation des populations rurales, il faut avoir tout ça à l'esprit. Hein. Vous voyez sur cette carte les astérisques, les étoiles qui représentent les médecins. Vous voyez les cercles qui représentent les médecins plus les chirurgiens. Donc ils sont toujours plus gros forcément que les astérisques. Et on peut voir dans la différence de taille qu'il y a entre le cercle qui entoure et l'astérisque qui est au milieu, le rapport entre les médecins et les chirurgiens. Par exemple, vous voyez qu'à Montpellier, il y a quand même beaucoup de médecins. Et puis, en plus des médecins, il y a aussi des subalternes, des chirurgiens qui exercent dans la ville. Vous avez au centre nord de la carte le cas du Vigan. Le Vigan, où vous voyez qu'il y a peu de médecins, mais beaucoup de chirurgiens. On est dans un bourg rural dans lequel on n'a pas les meilleurs soignants du point de vue de leurs études. Après, quelquefois, comme je vous dis, celui qui est l'artisan, qui est sur le terrain, qui pratique au quotidien, ne peut ne pas être finalement si mauvais que ça. Et on constate sur cette carte aussi qu'il y a quelquefois des cercles en plein milieu des garrigues, dans les zones gris clair, donc dans les zones peu peuplées, dans les zones rurales les moins peuplées. Il y a des cercles dans lesquels au milieu il n'y a pas de points, il n'y a pas d'astérisque, ça veut dire qu'il n'y a pas de médecins, ça veut dire qu'il n'y a que des chirurgiens. En fait, les chirurgiens sont partout, à la ville comme à la campagne. Les médecins sont presque exclusivement en ville, ou quand ils ne sont pas en ville, ils sont dans des gros bourgs, dans des petites villes, dans des gros villages. Mais au fin fond des campagnes, il n'y a pas de médecins. Les fameux médecins de campagne, c'est quelque chose qui va arriver au milieu du 19e siècle seulement. Là, fin 18e, début 19e siècle, il n'y a pas de médecins à la campagne. Les ruraux sont livrés à eux-mêmes avec un personnel de seconde zone, de seconde catégorie, un personnel subalterne. Et les réformes de la Révolution, qui sont entérinées par Napoléon en 1803, créent une nouvelle catégorie de soignants pour essayer de remplacer les chirurgiens d'Ancien Régime, puisque maintenant les chirurgiens ont le doctorat de chirurgie et s'élèvent au niveau social et au niveau de leurs compétences. La loi de 1803 crée l'officiat de santé. Les officiers de santé, qui sont une nouvelle profession qui recrute entre la période révolutionnaire et napoléonienne et 1892, date des derniers recrutements d'officiers de santé où ce statut cesse d'exister. Et les officiers de santé, en fait, c'est déjà un général d'extraction rurale, la plupart du temps, qui font des études, un petit peu d'études de médecine, des études de chirurgie, un apprentissage auprès d'un maître, des cours théoriques, un examen, à partir de 1803 quand même, un examen avec écrit et oral pour tester leurs connaissances et leurs compétences. Mais ces officiers de santé sont là essentiellement pour pallier à l'absence de médecins dans les campagnes. D'ailleurs, quand on parle de médecins de campagne de la seconde moitié du 19e siècle, en général, ce n'est pas de véritables docteurs en médecine, c'est des officiers de santé que dans la langue commune, on a l'habitude d'appeler médecins de campagne. Alors, cette question, c'est une question qui m'interpelle beaucoup ces dernières années, parce que je m'intéresse en même temps à l'amélioration de l'offre de santé au service des populations rurales, mais aussi à ce que ces soignants ont pu apporter comme connaissances, comme réflexions aux populations rurales. Savoir si finalement les populations rurales sont devenues davantage sensibilisées aux enjeux de l'hygiène et de la santé spontanément, ou bien grâce au lobbying, grâce à l'action de ces savants locaux. Hein, finalement, les officiers de santé du début du 19e siècle ou les chirurgiens du 18e siècle au milieu des populations rurales, c'est en général ceux qui sont le plus ouverts aux idées nouvelles, aux idées des Lumières au 18e, aux idées libérales, voire aux idées républicaines au 19e siècle. Et donc, dans le microcosme villageois, ce sont des porteurs de changements, parfois aussi de tensions et de bouleversements auprès de populations rurales assez conservatrices, dans lesquelles on a des médecins, ou des officiers de santé plutôt, qui cherchent à apporter des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de voir. Ça, c'est la situation vers 1805, où on voit bien la différence entre les villes et les campagnes. J'avais aussi essayé de faire le même genre de carte pour le 18e siècle. On a des archives qui sont conservées à la Bibliothèque interuniversitaire de santé à Paris. On a des choses dans les archives départementales de l'Hérault et du Gard, aussi des enquêtes de l'intendance. Mais j'ai pas réussi à faire des cartes aussi précises que pour 1805, parce que 1805, c'est Napoléon qui avait eu une volonté de recenser les praticiens de santé de toute la France et de les autoriser, et d'en interdire certains qui ont été considérés comme des charlatans. Les intendants de l'Ancien Régime ont essayé, mais d'une manière moins aboutie, cette politique de connaissance et de contrôle des soignants. Et en fait, toutes les cartes que j'ai pu essayer de faire pour le XVIIIe siècle avant Napoléon se sont avérées fausses, parce qu'une fois que j'avais fait les cartes et que j'allais voir des archives qualitatives, du genre procès devant les justices locales ou registre de baptême, mariage, sépulture, ben je m'apercevais qu'il y avait d'autres chirurgiens, d'autres soignants qui n'apparaissaient pas dans les listes officielles. Voilà pourquoi je préfère insister sur la logique, sur la carte de 1805, qui, elle, me semble à peu près exhaustive quant à la couverture en personnel de santé des campagnes. En 1805, en fait, pour le Gard et pour l'Hérault, on a environ 500 praticiens. Ça fait 200 chirurgiens reçus selon les formes anciennes au temps des maîtrises en chirurgie sous l'Ancien Régime, 130 docteurs en médecine et plus de 160 officiers de santé qui ont commencé à exercer sous la Révolution et qui ont été ensuite validés par la loi à partir de 1803. Voilà la situation des 500 praticiens de 1805, 200 chirurgiens, 130 docteurs en médecine, 160 officiers de santé à peu près. Tout ça face à plus de 600 000 habitants pour les deux départements. Donc ça nous fait environ un praticien pour 1200 habitants. Si vous préférez, ça fait entre 8 et 9 soignants pour 10 000 habitants. Donc par rapport à la carte que je présentais tout à l'heure, entre 8 et 9 soignants pour 10 000 habitants, ça veut dire qu'on est dans le orange foncé. Et donc le département de l'Hérault et le département du Gard, à proximité de la faculté de médecine de Montpellier, comme on pouvait s'y attendre, sont des départements dans lesquels on a une couverture en termes de nombre de soignants dense, une assez forte densité de soignants. Après, la question qui se pose, hein, cette fin 18e, début 19e siècle, où on a affaire à des régions balanguedociennes dans lesquelles il y a beaucoup de soignants, c'est de savoir jusqu'à quel point les populations locales ont eu accès à ces soignants et jusqu'à quel point est-ce que ces soignants ont pu convaincre les populations locales de la nécessité d'avoir davantage d'hygiène, de mieux se soigner, de faire attention aux mauvaises odeurs, de faire attention aux épidémies. l'historien de la médecine Jacques Léonard, qui avait étudié la Bretagne dans les années 1970-1980, a bien montré que pour le 19e siècle, en fait, ce n'était pas l'amélioration du recours à la médecine qui faisait augmenter l'espérance de vie, c'était l'inverse. C'était en fait l'espérance de vie des populations qui devenait plus longue, le niveau de vie qui augmentait et qui permettait donc aux populations d'utiliser leurs ressources accrues, d'utiliser leurs économies pour aller vers le médecin. Mais entre la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, vous voyez, c'est pas le médecin qui arrive à faire améliorer la qualité de vie des populations au 19e. C'est la qualité de vie qui fait qu'on commence à aller vers le médecin à ce moment-là. Alors j'ai essayé de, et je suis toujours en train d'y travailler, et beaucoup d'historiens sont en train de travailler là-dessus, essayer de revoir ces questions de médicalisation qui ont bien été étudiées maintenant pour le 19e par Jacques Léonard ou par Olivier Faure actuellement, qui travaille beaucoup sur les officiers de santé au 19e siècle. Et maintenant, il y a des historiens modernistes qui essayent de revoir, notamment en Angleterre, le 18e et même le 17e siècle, en se rapprochant du quotidien des populations paysannes, des populations rurales, pour aller voir quels étaient leurs atouts, leurs compétences, leurs recours en matière de santé. Par exemple là, 1737, dans un village languedocien, on a une délibération municipale dans laquelle, en fait, les personnes à la municipalité qui sont en charge de l'hygiène publique dans les rues font payer une amende à des habitants qui laissent pourrir des rameaux de buis au fond d'une impasse, et qu'on est dans une puanteur, une infection épouvantable où les voisins ne peuvent pas subsister dans leur maison, tellement ça pue. 1737, c'est quand même assez tôt, dans le 18e siècle, et la question c'est de savoir s'ils ont eu l'idée tout seuls, que ça puait, et donc il y avait un risque d'épidémie à l'époque de la théorie des miasmes, à l'époque de la crainte des mauvaises odeurs comme vecteur d'épidémie, ou bien... Est-ce que ce ne sont pas des chirurgiens, pas encore des officiers de santé parce que c'est un siècle trop tôt, mais on les appellera des chirurgiens à cette époque-là, qui vivent dans cette région-là et qui peuvent aller essayer de convaincre les populations rurales du fait qu'elles vivent dans la puanteur et que c'est dangereux. Souvent, ces chirurgiens sont membres du corps municipal, sont membres de la municipalité. Donc là, la grande question que je me pose, c'est de savoir si c'est... tout le monde, finalement, au village, qui est convaincu qu'il y a un danger à cause de ces mauvaises odeurs, ou bien si c'est juste le chirurgien qui réunit la municipalité pour dire « il faut faire attention ». J'ai plutôt tendance à penser que le chirurgien doit avoir un certain rôle, parce que la plupart des habitants, eux-mêmes, font pourrir du buis dans leur rue devant chez eux, et je ne vois pas pourquoi ça les dérangerait que le voisin fasse la même chose. Pourquoi le buis du voisin puerait davantage que leur propre buis ? Alors, ce genre de délibération au XVIIIe siècle, à une époque où les archives des communautés d'habitants sont assez bien tenues, où on a gardé beaucoup de délibérations municipales locales, on en trouve une multitude dans les villages languedociens et ailleurs, dans toute la France. Hein. Il est question de... J'ai mis les principaux termes en rouge. Il est question de malpropreté, il est question d'ordures dans les rues, il est question d'immondices. On a peur de maladies incurables, de maladies dangereuses et souvent incurables. On s'inquiète pour les eaux, pour la qualité de l'eau que l'on boit, parce qu'il y a des fumiers qui partent des terrains agricoles et qui s'écoulent jusqu'au niveau des sources. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète les populations rurales et qui les inquiète de manière récurrente, parce que les mêmes délibérations, avec les mêmes craintes, sont réitérées dans les mêmes villages pendant tout le XVIIIe siècle. Donc c'est bien la preuve qu'il y a la crainte, mais qu'on ne fait pas grand-chose et que les règlements ne sont pas respectés et qu'il faut sans arrêt les rappeler. Encore un exemple avec des particuliers qui entreprennent de construire des creux, des trous, si vous voulez, qui exhalent une puanteur qui est préjudiciable à la santé des habitants. Il est question de trous dans lesquels on fait macérer de la chaux, on met du fumier, on met des ordures, on voit bien ce mélange de déchets animaux, végétaux, excréments, pour fertiliser le sol, etc., etc. Dans le même village, on a les mêmes... recommandations, les mêmes interdictions qui se répètent à plusieurs moments. Ici, il est question dans le village de la chaux, du fumier, des creux qui servent à couver le chanvre, à faire macérer le chanvre, j'aurai l'occasion d'y revenir, les exhalaisons, les lessives, le problème de l'eau, le problème de la boucherie et du nettoyage des boyaux qui sont faits dans les cours d'eau, dans les rigoles qui passent pour arroser les jardins au milieu du village. Ça, c'est quelque chose qui est réitéré pendant tout le XVIIIe siècle. Je pense que les médecins ou les chirurgiens peuvent avoir un rôle dans, en tant que lanceurs d'alerte par rapport à ces risques-là. Mais je me demande jusqu'à quel point le XVIIIe siècle est une période de nouveauté. Finalement, tous les historiens qui se sont intéressés à la question insistent sur le fait que le XVIIIe siècle, c'est le siècle de l'hygiénisme, c'est un siècle dans lequel on considère que les épidémies sont liées aux mauvaises odeurs, et donc ils cherchent à faire quelque chose. Mais si on remonte un peu plus loin dans le passé, à la fin du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne, on retrouve souvent les mêmes recommandations, les mêmes préconisations. Il y a simplement une prise d'ampleur entre le XVIe et le XVIIIe siècle de ces inquiétudes. Ça fait l'unanimité chez les historiens, mais il faut quand même bien avoir aussi à l'esprit que les textes du XVIe siècle qui parlent de ces problèmes sont beaucoup plus rares que les textes du XVIIIe siècle aussi. Là, par exemple, dans le cas présent, Villeneuve-les-Béziers, près de Béziers, sont incriminés les fumiers et à nouveau les limes et les chanvres qui sont dans les caves communes, c'est-à-dire dans les fossés, les anciens fossés défensifs du tour du village dans lesquels on met toutes sortes d'objets à pourrir ou de chanvres à couver, c'est-à-dire à rouir. Je voudrais terminer là-dessus, puisque ça fait partie de mes champs de recherche actuels. La question du chanvre, la question du genêt, la question du lin, toutes ces fibres textiles qui sont mises à couver, dit-on, dans le langage languedocien, ou dans le langage de l'époque, je crois, français, tout simplement. Les couvaisons ou les couvements, ce n'est pas les œufs qu'on met à couver sous la poule, mais en fait, c'est les rameaux de végétal, de genêt, de chanvre, de lin ou d'autres choses, qu'on met à pourrir dans des creux, dans de l'eau, pour séparer la partie molle de la fibre, pour obtenir des fibres, pour ensuite faire des cordages, ou pour ensuite faire du tissu. C'est ce qui s'appelle le rouissage. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ce rouissage des fibres textiles, aux problèmes sanitaires que ça pose aux populations et aux soignants qui les observent et qui s'en inquiètent, et aussi à ce que ça nous apprend sur les gestes techniques qui étaient utilisés dans l'artisanat. Comment pratiquait-on le rouissage à cette époque-là, puisque le rouissage à l'eau, le rouissage dans des mares, dans des trous, c'est quelque chose qu'on a complètement arrêté dans les pays développés, en tout cas aujourd'hui. Donc ça concerne une multitude de fibres, je vous en donne ici quelques-unes, comme exemple, le genêt, le cannabis sativa, donc le chanvre, ou encore le lin. Ça peut se faire dans des creux, ça peut se faire dans des cours d'eau, ça peut se faire dans des bassins fabriqués exprès dans le centre et dans l'ouest de la France. On appelle ça des routoirs. Je vous ai mis une photo d'un routoir en bas à droite. L'avantage du routoir, c'est que ça ne pollue pas l'eau de la rivière. C'est un espace en vase clos dans lequel on fait pourrir le végétal avec des odeurs nauséabondes, mais au moins l'eau n'est pas théoriquement rejetée dans le milieu naturel, dans la rivière. Je dis théoriquement parce que tous les textes du XVIIIe ou du XIXe siècle montrent que quand on a fini le rouissage, on ouvre les vannes et on renvoie l'eau sale dans la rivière, en général. Donc le mal n'est pas limité autant qu'on pourrait le croire. J'étais tombé dans les tout derniers mois de ma thèse sur un procès de 1778 où il y avait des jeunes gens de plusieurs hameaux qui se disputaient par rapport au rouissage des fibres de genêt. Et ça m'avait beaucoup interpellé, j'en ai fait une publication quelques années après, qui est parue en 2015, parce que on pouvait penser que c'était des paysans qui étaient des écologistes avant l'heure, finalement, qui se disputaient par rapport au fait qu'il y en avait qui faisaient qui polluait le ruisseau en allant mettre des fagots de genêt dans l'eau pour le faire rouir. Mais on pouvait aussi penser que ce n'était pas des écologistes en avance de 2 ou 3 siècles, mais que c'était des gens qui essayaient de régler d'autres comptes, d'essayer de poursuivre des litiges qu'ils avaient déjà entre familles rivales, au prétexte d'une nouvelle préoccupation sanitaire qui était en train de se développer au siècle des Lumières. Alors, pour faire bref, sur cette carte, les hameaux que j'ai mis au nord avec des cercles blancs sont les hameaux où vivent ceux qui pratiquent le rouissage. Le ruisseau qui apparaît avec des tiretés qui va du nord vers le sud, C'est le ruisseau le long duquel il y a des fagots qui ont été mis à rouir fin août, début septembre 1778, en causant des odeurs nauséabondes qui ont inquiété tout le monde, évidemment. Et les deux carrés blancs, la métairie du Cos et le hameau des Bontades, qui sont au sud de cette seigneurie languedocienne, cette seigneurie de Pézennes, les deux carrés blancs, c'est là où sont les écologistes, c'est-à-dire les habitants qui, par une expédition nocturne, vont le long du ruisseau et sortent les fagots de genêts qui sont en train de rouir le long du cours d'eau. Et ils jettent tout ça dans les broussailles le long du ruisseau, en cachette, bien sûr. Et donc, quelques jours plus tard, c'est les habitants des hameaux avec les cercles blancs qui vont devant le juge seigneurial et qui portent plainte parce qu'on a dégradé leurs ressources économiques. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être faites quant à ce procès, qui se termine à l'amiable devant le notaire, comme on faisait souvent à cette époque-là, après avoir montré les muscles. On finit par transiger et il y a une compensation financière. Compensation financière donnée par les écologistes au profit des producteurs. Hein. C'est ce qui gagne finalement, c'est ceux dont on a dégradé la production de fil. Je me suis aperçu, en allant creuser un petit peu cette affaire-là, que en fait, les suspects, les coupables, ceux qui vont faire l'opération de destruction pendant la nuit, ce sont des gens qui ont des troupeaux, mais vous me direz, mais tous ces paysans dans ces petits hameaux languedociens ont quelques têtes de bétail, mais eux expliquent bien dans les dépositions qu'ils se sont fait du souci pour leurs moutons. Ils avaient peur que les moutons attrapent des maladies en allant boire l'eau. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait des gens qui sont soucieux de santé humaine. C'est des gens qui sont soucieux de santé du bétail qui font cette expédition anti-rouissage. Et pas pour protéger les animaux, mais pour protéger une ressource économique, bien entendu. Hein. C'est l'économie qui prime sur l'environnement. Pourquoi ça se passe en 1778 ? Je n'ai pas trouvé la réponse, mais je me dis que c'est peut-être une époque de croissance démographique, de croissance du rouissage des fibres textiles. Et donc où la pression sur l'environnement est plus grande que quand il n'y avait que quelques fagots qui étaient rouillés. Et plus vous mettez de fagots dans l'eau, plus ça fait de macération, plus ça sent mauvais, et plus ça peut ensuite créer des litiges. Bon, au-delà d'essayer de comprendre les rapports sociaux et environnementaux entre les populations, j'ai bien aimé ce procès de 1778, c'est ce procès très anecdotique finalement, parce qu'il m'a amené à m'interroger sur les techniques de rouissage qui étaient utilisées, et des techniques du 18e et du 19e siècle sur lesquelles on ne sait finalement pas grand-chose. On a tourné le dos à la connaissance sur ces techniques-là. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais rapidement, j'avais récupéré chez les différents auteurs dont je vous parlais tout à l'heure, les médecins, les soignants, les savants qui ont fait des études de médecine, qui se sont baladés dans les campagnes languedociennes. J'ai récupéré des informations et chacun apporte des nuances aux gestes techniques du rouissage. Il y en a certains qui expliquent que ce qu'ils ont vu, ça se passait dans des creux à côté de la rivière, dans la terre, où on vient tous les jours mettre un peu d'eau dessus pour que ça continue à pourrir, à macérer. D'autres observent un rouissage qui est fait au fond de l'eau, de la rivière. Quelquefois, c'est de l'eau courante, quelquefois, c'est de l'eau stagnante, etc., etc. Et on a ces mêmes pratiques de rouissage très variables d'un individu à l'autre ou d'un lieu à l'autre dans toute la France, pour le genêt, pour le chanvre, pour le lin. Et on a une grande enquête sur les lins et chanvres qui est faite en 1813, au début du 19e, où si on fait la liste des réponses de tous les départements, on voit que quelquefois on rouille sur un tas de végétal qu'on fait pourrir, quelquefois ça se passe dans la terre au fond d'un trou, quelquefois ça se passe dans le cours d'eau, etc., etc. En plus de ces archives locales qui donnent des renseignements sur les techniques de rouissage, je me suis aussi intéressé à des travaux de savants, et en général c'est des médecins. Il y a notamment le médecin Alexandre Parent du Châtelet qui a publié un traité sur le rouissage et ses enjeux sanitaires en 1832. Lui, il est partisan du rouissage et il considère que pour développer la France dans le domaine de la marine à voile, dans le domaine des besoins textiles et des besoins en cordage d'une population en pleine croissance au début du 19e siècle, Alexandre Parent du Châtelet considère qu'il faut rouir de plus en plus de chanvre et de lait, que c'est nécessaire économiquement, et lui explique par la science qu'il n'y a aucun risque environnemental, que ce n'est pas parce que le poisson a le ventre en l'air qu'il meurt dans le cours d'eau qu'il y a un risque pour les populations humaines. Il s'amuse même à faire des expériences en faisant boire de l'eau de ruissage, en mettant de l'eau de ruissage à proximité des habitations pour montrer en fait que les habitants ne meurent pas forcément, même si ça sent mauvais, à cause de ces activités de ruissage. Quelques années avant, en 1787, c'est la gauche de l'image, il y avait eu un concours qui avait été mis en place au niveau de je ne sais plus quelle société royale d'agriculture, c'est celle de Lyon, et le vainqueur de ce concours, ça avait été l'abbé Rosier, donc un grand agronome qui a fait des études de médecine également de la fin du XVIIIe siècle. Et l'abbé Rosier propose des solutions pour essayer de continuer à rouir et de rouir de plus en plus à une époque où fin XVIIIe, la marine à voile se développe, on a de plus en plus besoin de chanvre. Et Rosier cherche des solutions entre l'eau courante, l'eau stagnante, l'eau routoir. Il présente les inconvénients et les avantages en matière de qualité des fibres comme en matière de problèmes sanitaires, des différentes techniques. Alors voilà où j'en suis dans mes recherches actuelles. Et demain, si vous avez envie de vous promener, vous pouvez m'accompagner au Mans dans 24 heures, mais pour aller à l'université, pas aux 24 heures du Mans. Il y a un colloque sur le chanvre, et je vais aller y faire avec des collègues à moi une communication sur le ruissage du chanvre. On est en train de travailler avec un financement de la Maison des sciences de l'homme sud, la MSH de Montpellier. On est en train de travailler à un projet de recherche entre sciences dures, sciences expérimentales et histoire, pour remettre en place le ruissage à l'eau, du moins de manière expérimentale et en vase clos, hein, on ne veut pas vous polluer les rivières, pour essayer en même temps d'apporter un plus à la connaissance historique des gestes techniques de ruissage dans le passé et de l'état sanitaire des populations des 18e et 19e siècles, et en même temps pour apporter de nouvelles informations à une filière chanvre qui est en plein boom, en plein redéveloppement depuis quelques années. On a à l'école des mines d'Alès, à l'IMT Mines Télécom, des chercheurs qui s'intéressent au chanvre mis dans des matériaux biocomposites comme fibres durables, fibres écolo, fibres vertes, et qui ont un problème à cause du ruissage au champ qu'on pratique aujourd'hui depuis un siècle, c'est-à-dire le fait de laisser après la récolte les fibres de chanvre sur le champ en attendant qu'elles macèrent. Alors il y a des expériences qui ont été faites en Languedoc, hein, avec des agriculteurs qui cultivent du chanvre. Le problème, c'est qu'au moment de la récolte, nous on est soit en grande sécheresse, soit en épisode de cévenol, donc grande inondation, mais c'est pas évident d'arriver à garder le chanvre sur le champ et d'avoir un ruissage, une décomposition régulière. Et donc mes collègues de l'école des mines d'Alès et les industriels sont très intéressés par les informations de l'abbé Rosier ou de Parent du Châtelet ou de mes procès du 18e et du 19e siècle pour voir comment à l'époque on arrivait à rouir. Et tous les auteurs du 18e et 19e disent que quand c'était un ruissage à l'eau, c'était bien sûr une fibre qui était plus solide et de meilleure qualité que quand c'était un ruissage au champ. Et là, les premières expériences qu'on vient de faire montrent effectivement que le ruissage qu'on a fait dans des bacs avec de l'eau, c'est un ruissage qui donne des fibres de meilleure qualité. Donc on a arrêté depuis le début du XXe siècle le ruissage à l'eau parce que ça posait des problèmes sanitaires et puis parce qu'on est passé au coton, aux fibres synthétiques, à autre chose. Pourquoi ne pas revenir à du ruissage à l'eau mais étudier la chimie de l'eau et voir ce qui s'y passe pour essayer d'éviter d'avoir les mêmes problèmes environnementaux qu'à l'époque ou alors savoir les traiter avec des procédés de traitement des eaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, c'est une tentative de reproduction du ruissage à l'eau traditionnel dans des bacs. Donc on met les sciences expérimentales au service de l'histoire. Hein. Pour une fois, l'histoire n'est pas un faire-valoir pour les sciences dures, les vraies sciences, entre guillemets. C'est les sciences qui font des expériences pour renseigner l'historien, pour identifier les contaminants. Et en même temps, l'histoire est au service du présent pour évaluer ensuite la qualité des fibres obtenues. Et mes collègues de l'école des mines d'Alès, ensuite, étudie la qualité de ces fibres. Donc on travaille avec des spécialistes de sciences des matériaux, des historiens, des microbiologistes qui s'intéressent donc aux organismes qui sont dans l'eau, pas dans le ruissage, des toxicologues de la faculté de pharmacie de l'université de Montpellier, qui s'intéressent aux produits toxiques qui sont générés par le ruissage, et puis des chimistes, bien entendu, également, à côté des historiens. Voilà, donc demain, j'irai présenter avec un collègue de l'école des mines d'Alès, pas encore les premiers résultats, parce qu'on n'a pas fini, mais en tout cas le dispositif de ce projet de recherche interdisciplinaire. Donc j'espère vous avoir convaincu que l'histoire des questions de santé dans les campagnes, ça reste un champ de recherche fécond pour lequel il y a encore beaucoup de choses à faire pour connaître l'accès aux soins des populations rurales. Hein. On peut essayer de repérer les professionnels de santé, mais même quand on les aura identifiés et repérés, et si on arrive à faire la liste à un moment donné dans une campagne de tous les professionnels de santé, il faudrait aller voir ensuite les rapports que les populations locales entretiennent avec ces gens bizarres, souvent un peu extérieurs ou un peu marginaux, parce qu'ils ont une science supérieure, différente de celle du monde paysan. Les historiens aujourd'hui explorent des hypothèses sur l'action dès le XVIIIe siècle du corps médical dans les campagnes, sous l'égide des villes et de l'administration royale qui cherche à améliorer la santé des campagnes qui intéressent les intendants, qui intéressent les pouvoirs publics du XVIIIe siècle. Les pouvoirs publics distribuent des boîtes de remèdes dans les campagnes par l'intermédiaire des intendants et en dessous d'eux par l'intermédiaire des curés. Les campagnes, c'est aussi le lieu où des savants vont recueillir des savoirs sur les plantes, sur les techniques, sur l'agronomie, mais aussi des savoirs médicaux. Les campagnes, c'est aussi le lieu où des chirurgiens exercent et de plus en plus d'officiers de santé au XIXe siècle, qui sont souvent finalement des ruraux qui ont connu une ascension sociale. Et on a des familles entières de chirurgiens qui deviennent officiers de santé et quelquefois qui terminent comme médecins dans les villes au XIXe siècle. Donc il y a des formes d'ascension sociale qui se font autour des métiers de santé. Et puis pour finir, moi, ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est finalement un lien entre l'histoire des sciences, l'histoire des techniques agricoles, en essayant de tisser des liens entre les deux, pour avoir des informations des savants sur les pratiques agricoles quotidiennes, sur les gestes techniques des populations paysannes au XVIIIe et au XIXe siècle. Voilà. Je vous remercie, je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai épuisé mon temps et je vous ai à peu près tout dit ce que je voulais. Merci.